L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Thierry Lacan, créateur de la galerie strasbourgeoise L'Estampe en 1979, donc il y a 45 ans, et qui pour célébrer cet âge honorable, mais surtout se souvenir des artistes remarquables accueillis à la galerie, organise une exposition rétrospective qui aura lieu du 18 mai au 8 juin. Thierry Lacan, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir dans votre studio.
Écoutez, avec plaisir, je crois qu'on s'était déjà eu au téléphone, on ne s'était jamais vu de visu, et pourtant vous êtes, j'allais dire, à l'instar des artistes que vous avez accueillis, vous aussi, aujourd'hui, vous êtes une légende strasbourgeoise, de par ce que vous avez mis en place, donc il y a 45 ans déjà, l'idée d'accompagner des artistes, et particulièrement les artistes qui faisaient de la gravure. Alors on connaît quelques grands noms, hein, Tommy Ungerer ou alors Raymond Weidelich, que vous avez exposé et qu'on va retrouver d'ailleurs, dont les œuvres vont être exposées, je le disais, du 18 mai au 8 juin. Alors, pour quelles raisons l'engouement de l'époque pour la gravure, c'est au moment où vous avez ouvert votre galerie ?
Oui, alors en fait, effectivement, il y avait un engouement à l'époque assez considérable, mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle j'ai ouvert cette galerie qui s'appelait déjà L'Estampe à l'époque. Hein. C'était déjà un intérêt personnel. J'avais découvert mes premières gravures, je crois que j'avais 18 ou 19 ans, dans le château de Prague, à l'époque du mur, où il y avait un marchand de gravures anciennes, et j'avais trouvé ça extraordinaire. Donc voilà, c'était un choix vraiment... par rapport à mon goût pour la gravure, d'ouvrir cette première galerie qui s'appelait L'Estampe, qui avait autant de gravures anciennes, hein, que de gravures contemporaines, qu'on appelait gravures modernes d'ailleurs à l'époque. Et donc ça a démarré comme ça.
Donc les gravures anciennes, vous parcouriez le monde pour les chercher? Vous étiez spécialisé dans ce domaine-là particulièrement?
Oui, tout à fait. Donc, la gravure ancienne, en fait, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Bassin Rhénan, déjà, il y a eu tellement de gravures depuis que les gravures existent. Hein. Et effectivement, il y a des collectionneurs, enfin, il y a plein de sources. Il y a plein de sources à l'époque. Et effectivement, je devais passer pas mal de temps à rechercher des gravures, soit de noms d'artistes qui m'intéressaient, soit aussi simplement des sujets aussi qui m'intéressaient.
Quel sujet particulièrement alors ?
Alors, dans la gravure ancienne, à l'époque, il y avait une grosse demande, je dirais, de la gravure topographique, par exemple. Hein. Je me rappelle avoir fait une exposition sur les fortifications de Vauban. Et voilà, ce genre de sujet, j'aimais bien avoir des sujets comme ça particuliers, où je présentais une collection à thème.
Aujourd'hui, il y a toujours une production de gravures. Alors, vous parliez de gravures anciennes, mais il y a des gravures contemporaines, mais un peu plus anciennes. Il y a toujours aujourd'hui une production et des artistes qui sont spécialisés dans la gravure.
Bien entendu, parce que la gravure, c'est un moyen d'expression tout à fait extraordinaire pour les artistes. Tous les grands artistes ont fait de la gravure. La gravure, ce n'est pas une reproduction d'une peinture. La gravure, c'est vraiment un moyen d'expression, c'est-à-dire qu'on peut faire avec une gravure, on peut réaliser des œuvres qu'on ne peut pas réaliser autrement. Vous voyez, avec une pointe sèche, par exemple, vous avez un trait de pointe sèche, vous avez un velouté, aucun autre moyen de faire ce velouté du trait comme Hartung, par exemple, qu'avec une pointe sèche. C'est un exemple parmi des milliers. Quoi,
hein. On sent quand même chez vous la passion intacte pour la gravure et pour l'art en général.
Tout à fait. Bon, c'est vrai que j'étais sensibilisé peut-être dans mon enfance. Ma mère qui avait fait les Beaux-Arts à Paris, peut-être ça peut-être joué quelque part. Mais c'est vrai que c'est absolument passionnant de découvrir tout ce monde de la gravure. Moi, j'ai eu un apprentissage empirique. Hein. Je me rappelle, à l'époque, j'avais acheté un livre qui s'appelle Le Bercier, que je conseille à tous les amateurs de gravure, qui explique toutes les techniques. Je l'avais presque appris par cœur. Et j'allais voir dans les ateliers comment ça se passait, je rencontrais des artistes, etc.
À l'époque, et vous l'êtes toujours, vous êtes éditeur, vous êtes graveur, donc ça veut dire que vous réalisez les œuvres des jeunes graveurs ou plus anciens, et également des grands noms, dans le sein de votre galerie ?
Oui, alors...
Enfin, de vos ateliers ?
Pour essayer de synthétiser L'histoire qui nous a amené à faire ça, au début on avait une galerie, mais très vite on s'est mis à faire de la distribution, c'est-à-dire qu'on achetait en gros et on revendait à d'autres galeries. Après, on est devenu nous-mêmes éditeurs, hein, c'est-à-dire l'éditeur, c'est un travail qui est vraiment, c'est, je dirais, le niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on participe à la création. On va voir un artiste, on lui propose de faire une création d'estampes, c'est-à-dire qu'il va fabriquer une matrice selon la technique qu'on va choisir avec lui. Hein, ça peut être de la lithographie, de la sérigraphie, de la gravure en taille douce, etc. Ou gravure sur bois. Et donc, en fait, cet artiste va créer une matrice et ensuite, on va aller voir un atelier qui va faire le tirage. C'est comme ça que ça se passe en général. Après, donc, nous, au bout d'un moment, on s'est spécialisé, enfin assez vite d'ailleurs, fin des années 90, dans une technique qui s'appelle l'aquagravure et qui a été créée dans les années 80. Et alors, cette aquagravure, c'est une gravure qui est en relief, qui a beaucoup plus de relief que les autres gravures, même le Carborandum d'Henry Guts qui est aussi en relief. Mais là, c'est vraiment, ça a énormément de présence. Et grâce à cette technique, nous avons réussi à approcher beaucoup de grands artistes qui voulaient la découvrir. Donc, comment ça se passe pour faire une aquagravure, parce que donc finalement on a créé nous-mêmes, là je vais un peu vite, mais c'est vrai qu'au début c'était pas notre atelier, mais comme l'atelier de Bernard Prat s'est arrêté, on a créé nous-mêmes notre atelier, et donc en fait, dans cet atelier, on peut nous-mêmes donc fabriquer des gravures. Donc là on est en même temps finalement galerie, distributeur, éditeur et fabricant. C'est un peu l'évolution des marchés aussi, hein, parce que je veux dire, l'estampe, comme vous l'aviez justement dit, avait un grand engouement dans les années 80, on va dire. Cet engouement a disparu en fait. Hein. C'est devenu maintenant, ce sont des amateurs. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui achètent des gravures vraiment parce qu'ils veulent une gravure. Et c'est vrai qu'il y a un très bon public pour ça. Mais donc petit à petit, les ateliers ont disparu, les éditeurs ont disparu. Donc finalement, on a dû se mettre à faire le travail de distribution, qui est normalement pas le travail d'une galerie, mais faire aussi le travail ensuite d'éditeur et ensuite faire même le travail d'atelier. Donc c'est voilà, ce qui fait qu'on a finalement ces quatre métiers en même temps.
Et encore aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, bien sûr, là actuellement, on est en train de travailler sur un projet de Speedy Graffito qui va être très très beau. On travaille aussi avec Bernard Légan. J'aimerais bien refaire des gravures avec Raymond Weidelich, qui a été vraiment un graveur extraordinaire, parce qu'il grave lui-même ses gravures, hein. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il nous a fait des choses vraiment superbes, donc là j'essaie de le convaincre en ce moment, s'il m'entend peut-être. Et autrement, on a aussi un projet avec Messac, enfin voilà, bien sûr on continue. Oui.
Alors, bien sûr, on parlait de gravures également, des grands noms, hein, du street art ou de la peinture de différentes écoles. Vous avez, vous, découvert des artistes en particulier ici dans votre galerie à Strasbourg ?
Oui, bien sûr, on a découvert des artistes. Alors, on a toujours beaucoup d'artistes qui passent nous voir, mais c'est vrai que, par exemple, Marie-Jo Dalloz, là, c'est de la peinture essentiellement, hein, qu'on a découverte. Christophe Oller, par exemple, sont des artistes avec qui on travaille depuis très longtemps maintenant. Effectivement, pour ce qui est de l'édition aussi, évidemment. Et il y a aussi récemment Christophe Verung, qu'on aime beaucoup et que l'on défend dans la galerie. En fait, aujourd'hui, il y a presque, chez nous, les choses ont un peu évolué depuis le Covid, finalement. Le marché de distribution a vraiment beaucoup baissé. Tous nos représentants ont arrêté après le Covid, en fait. Et par contre, les galeries ont vraiment repris un essor.
Et donc, c'est l'engouement du public, ça ?
Oui. Je veux dire, le public, en général, maintenant, veut plutôt de la peinture. Et ça nous convient très bien, parce qu'il y a des très bons artistes dans la région, et même ailleurs, évidemment, et que l'on aime beaucoup et que l'on peut défendre. Il se trouve aussi, Aussi les personnes qui travaillent avec moi, à qui je suis très reconnaissante, parce qu'elles sont, capables de vraiment défendre les galeries, parce que maintenant on en a plusieurs. Hélène Arouez à Strasbourg, qui a redonné un nouveau souffle à la gravure, ou j'ai aussi un galeriste, M. Bardou, qui est à Pont-Aven, vous voyez, et ça marche très bien aussi. Donc aujourd'hui, les galeries font plus de peinture que de gravure. Et autrement, le marché des professionnels soutient l'édition. Mais donc ça a un petit peu changé depuis le Covid.
On en parlait en introduction en aparté, même avant cette interview, du tabou du côté marchand de la galerie qui est essentiel pour l'émergence justement des nouveaux artistes. Et des plus anciens, parce que c'est leur gagne-pain. En fait, on oublie souvent, il y a quelque chose dans l'art qui est tabou quand on parle d'argent. Pourtant, aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire pour la reconnaissance de tous ces artistes.
Mmh. Oui, effectivement, c'est tabou et c'est malheureux, parce qu'en réalité, la galerie qui vend des œuvres, c'est aussi l'exigence de l'artiste. L'artiste, il doit vivre. Si la galerie ne vend pas, l'artiste, il part tout de suite. Ça, c'est pas possible. Il doit vivre, c'est normal. C'est pas une question qu'il est avide de quoi que ce soit. C'est qu'il a besoin de vivre. Et la galerie aussi a besoin d'équilibrer ses budgets. Donc, malheureusement, c'est effectivement tabou. Mais il y a des raisons aussi. Le fait que c'est tabou, c'est vrai qu'il y a des envolées sur le plan, surtout dans le monde de l'art contemporain, quand on voit qu'il y a des œuvres qui ont été vendues à 30 millions, je crois, c'était à Art Basel l'année dernière. Donc c'est vrai qu'il y a, en fait, il y a plusieurs mondes dans le marché de l'art. Et en fait, le monde qui mérite quand même, une certaine critique, c'est effectivement tout ce monde de l'art d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement tout ce côté-là où il y a des artistes qui sont vendus, finalement, l'œuvre a peu d'importance, c'est la signature, et voilà. Après, nous, on n'est pas trop concernés par ça, dans notre type de galerie. On est vraiment en contact avec des gens qui vont vraiment aimer les œuvres. Et c'est vraiment la rencontre des clients avec une œuvre. Et ça c'est quelque chose de passionnant aussi.
Alors, dans les œuvres que vous allez exposer et que les personnes vont pouvoir voir dans votre galerie, il y aura une œuvre de Robert Combas, par exemple. Et ce sont des œuvres qui peuvent se vendre à plusieurs millions. Donc faisait partie des artistes émergents au moment où vous les avez exposés.
Alors non, on ne peut pas dire ça. Je veux dire, nous, on a commencé à travailler avec Robert Combas au début des années 2000. Il n'était pas vraiment émergent. Mais moi, ce qui m'intéressait chez Robert Combas, c'est que c'est un artiste qui a un monde tout à fait particulier. C'est très intéressant de défendre un artiste comme ça. Qui a du mal à s'exprimer oralement, par exemple, mais alors qui est absolument génial quand il dessine. Donc, je voulais absolument travailler avec lui. Effectivement, là, on va présenter une œuvre de lui qu'on a éditée il y a une dizaine d'années à peu près, qu'on avait gardée, on a gardé toujours un exemplaire, qui était... c'est une sérigraphie sur un caisson lumineux, mais qu'on a édité cette œuvre... En réalité, après, il n'était pas content du résultat. Il trouvait que c'était pas assez fort. Et il a repris, il m'a demandé de reprendre les œuvres, même que j'avais vendues, et il les a regravées par-dessus chacune. Donc voilà, ça c'est le personnage très très difficile dans le sens où il a une rigueur qui dépasse toutes les limites et mais aussi qui part un peu dans tous les sens. Donc on a fait des très belles choses avec lui. Oui.
Alors on va pas être exhaustif effectivement sur les artistes que vous allez exposer, mais on va retrouver du Raymond Weidelich,
oui, bien sûr,
Tommy Ungerer.
Qui sera là, Raymond Weidelich, normalement. Enfin, j'espère que là, il y a eu un problème de santé, mais je pense que ça devrait aller.
Des œuvres de Speedy Graffito ?
Oui, Speedy Graffito, c'est un vrai bonheur de travailler avec Speedy Graffito, parce que c'est le genre d'artiste qui est tellement prolifique, qui a une idée à la minute, et qui, vraiment, c'est passionnant.
qui part dans, enfin, qui est plutôt représentant du street art. Héro, qui est peinture, peinture gravure, un
voilà,
Islandais.
Héro, c'est vraiment le grand artiste qui fait partie de la figuration narrative. Hein. C'est des artistes qui, évidemment, au niveau mondial, quoi. Hein. On a d'ailleurs suivi un peu dans l'édition notre ligne artistique. C'était effectivement, on a suivi plusieurs grands mouvements. Hein, vous parliez de Combas avant, la figuration libre hein, avec Combas, Di Rosa hein, et la figuration narrative. Ça, c'est Héro, Peter Klaasen, etc. Et donc finalement, c'est amusant parce que quand on rentre. Quand on commence à travailler ce genre d'artiste, finalement, ça s'enchaîne. Hein. Ils veulent tous essayer l'aquagravure et c'est super, quoi. On a réussi à rentrer dans pas mal de cercles comme ça. Ou Villeglé, hein, qui est un artiste qui est dans l'histoire de l'art aussi, hein, qui a créé les mouvements des affichistes.
Guillaume Corneille également.
Ah, Corneille, ça c'est un vrai bonheur. J'étais son dernier éditeur. Et voilà, c'est un des fondateurs du mouvement Cobra, et c'était un monsieur absolument passionnant, quoi.
Alors, j'avais dit, on ne sera pas exhaustif. Après, c'est vous qui avez effectivement le regard de l'expert. Quel nom voulez-vous, de qui vous voulez parler, des œuvres, de qui vous voulez parler, qu'on va voir pendant cette exposition qui est dédiée aux 45 ans de la galerie?
Alors, donc, on espère que toutes les œuvres seront intéressantes. Maintenant... Disons, actuellement, on travaille beaucoup avec Speedy Graffito, donc on est vraiment dans Speedy Graffito et on a plein de nouveautés, etc. Maintenant, je pense que là, on a un très beau retable de deux poutres, par exemple, que je trouve superbe, une sculpture sur bois, quoi, un triptyque, en fait, qui se plie comme un retable, quoi. Donc, il y a... Voilà, je crois qu'il faut venir voir parce qu'il y a, je ne vais pas décrire toutes les œuvres maintenant. Je crois que chacun va nous apporter vraiment une œuvre un petit peu, je dirais pas exceptionnelle, mais disons qui sort un peu du lot, quoi.
Merci en tous les cas d'être passé nous voir, Thierry Lacan, dont je rappelle,
oui.
Vous êtes le créateur de la galerie strasbourgeoise Les Stampes et vous célébrez les 45 ans d'existence de la galerie, donc en exposant les œuvres des artistes dont on a parlé pendant cette interview, et ça se passe du 18 mai au 8 juin, c'est dans votre galerie qui se situe Quai des Bateliers, c'est cela ?
Oui, c'est ça, 31 Quai des Bateliers, face de pyramide.
Et puis, évidemment, voilà. J'invite également nos auditeurs à passer, souvent on a du mal à passer, à franchir le pas d'une galerie parce qu'on se sent obligé, parce qu'on pense que c'est réservé à une élite. Et on peut venir voir, on peut venir discuter avec
Alors,
vous.
Alors, nous, tout à fait, on est toujours ouvert, l'entrée est totalement libre. Même les jeunes qui veulent apprendre des choses, on a souvent ça, qui font un devoir, etc. On est toujours prêt à accueillir et à parler un peu de notre métier avec qui veut.
Voilà. Thierry Lacan, merci beaucoup.
Ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup de votre accueil, c'était très agréable.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.